Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et aussi en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Perrine Millet. Bonjour.
Bonjour.
Perrine Millet, vous êtes ici pour le Maillon Manquant, association implantée sur le Diwa. Et vous êtes ici pour nous parler de l'actualité et forcément aussi de la journée internationale de la lutte du droit des femmes qui va avoir lieu le 8 mars partout sur la planète. Mais donc il y aura un petit événement programmé avec l'aval de la préfecture jusqu'à présent et qui se passera donc lundi 8 à midi devant la cité scolaire.
Et oui, je crois que plusieurs associations vont se retrouver là. Hein, la journée du 8 mars, c'est la journée de la lutte et de l'égalité pour les droits des femmes. Et un Maillon Manquant qui n'est pas une association dédiée spécifiquement à la lutte contre les discriminations féminines est quand même dédiée à la formation pour les soignants, qu'ils soient capables de prendre en charge correctement les patientes victimes de violences. Donc théoriquement, c'est plutôt le 25 novembre, mais en fait, ça se rejoint. Puisqu'on sait bien, et les instances internationales, que ce soit l'ONU, la Convention d'Istanbul, la loi européenne dite Convention d'Istanbul, reconnaît que les violences faites aux femmes sont une manifestation des rapports historiquement inégaux entre les hommes et les femmes. Et il est bien clair que c'est le patriarcat qui permet les violences. Et donc, dans ce cadre-là, un Maillon Manquant fait forcément partie. En tout cas, en tant que coopérante de la journée du 8 mars dans le Diwa.
Donc, un programme qui sera établi, qu'on pourra connaître prochainement, je suppose. Il y aura donc des chants, de la danse, de la musique aussi, avec donc ce rassemblement qui partira ensuite dans une marche au travers de la ville pour arriver ensuite au square de la comtesse Adi. Quels sont les acteurs qui seront présents? Vous parliez d'associations, il y aura aussi des artistes. Est-ce qu'on a un petit peu quelques noms pour
appuyer? Alors déjà, je peux citer l'association dont un Maillon Manquant est partenaire, qui est Les Chouettes, qui sont aussi une association de bénévoles dédiée à la prise en charge des femmes victimes de violences. Les artistes, je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura plein d'autres... gens et femmes et hommes, j'espère, le plus possible, pour cette manifestation organisée entre le collège et la place de la Comtesse.
Je ne sais pas à quand remonte notre dernière entrevue, mais ça dépendait, ça avait eu lieu avant le premier confinement, je crois. Est-ce que le Covid a marqué un moment d'arrêt pour votre exercice au sein de la prévention et du recours aussi aux personnes fragilisées?
Alors oui, la Covid a frappé, hein, puisque nous avions organisé avec la sous-préfecture une réunion de formation pour les gendarmes conjointe avec les médecins libéraux du Diwa et de la vallée du Diwa, où la gendarme Karine Bonnefond, qui est référente sur les violences intrafamiliales sur le Rhône, devait venir faire une intervention. Personnellement, je devais faire une intervention pour les médecins en matière de conséquences somatiques, c'est-à-dire sur la santé globale des violences faites aux femmes et aux enfants. Et il devait y avoir aussi une pédopsychiatre, Madame Catherine Bonnet, qui s'était proposée de venir parler de l'impact des violences sur les enfants et comment on peut, en périnatalité, faire de la prévention en accompagnant correctement les couples.
Je rappelle quand même que vous êtes la créatrice d'un diplôme de soignant en premier recours, c'est ça ?
Oui, alors en fait, actuellement, il n'existe pas en formation initiale de formation sur les violences faites aux femmes et aux enfants en faculté de médecine. Quasiment pas non plus pour les sages-femmes, rien pour les kinésithérapeutes, rien pour les médecins généralistes. Et la seule formation qui existe en faculté de médecine à l'heure actuelle a commencé en 2018 sous l'impulsion d'un maillon manquant, avec le soutien de la faculté de l'université de Grenoble-Alpes et Paris Université, pour les soignants de premier recours, c'est-à-dire les médecins généralistes, les gynécos, les sages-femmes, les kinés, à qui seulement 25% des femmes confient leurs soucis, 75% ne disent pas, ne peuvent pas dire ce qu'elles ont vécu, même si la parole se libère énormément sur les réseaux sociaux récemment. En consultation, en colloque singulier, comme on dit nous les toubibs, si nous on ne pose pas la question, on ne peut pas adapter nos soins en fonction des antécédents de la dame.
Le maillon manquant donc agi sur le territoire. Est-ce qu'il y a eu un regain d'activité depuis ce confinement, ce premier confinement ?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons, de toute façon c'était prévu, mais nous avons monté un kit de mobilisation pour les soignants qui sera distribué dans toutes les maternités de France, toutes les PMI, tous les conseils de l'ordre, tous les départements de médecine générale du CHU, des CHU et les sociétés savantes de kiné. Et ce kit, il est destiné en fait à mobiliser les soignants pour éveiller leur curiosité par rapport aux conséquences sur la santé globale et sur la santé somatique et singulièrement la santé sexuelle et reproductive, puisque je suis gynécologue obstétricienne, de telle façon que le déni sociétal que nous partageons tous sur les conséquences médicales des violences, puisqu'elles se libèrent dans la parole des réseaux sociaux, puissent être franchi et qu'il y ait une demande et un besoin, même si effectivement la demande et le besoin existent, le pas n'est pas franchi par les soignants, en sachant que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de recours actuellement en formation, comme je vous le disais au départ. Donc nous avons monté ce kit, il est en phase de d'essai, nous avons fait déjà deux sites pilotes, un au Conseil de l'Ordre de l'Isère et un sur la maternité de la clinique mutualiste à Grenoble. Il va y en avoir un sur la PMI de l'Isère et le 11 mars prochain, je montre ce kit dans le cadre de l'enseignement en médecine générale du CHU de Montpellier, de 150 internes qui sont inscrits au CHU de Montpellier. Voilà, on a fait le kit. Il y a plus de cours qui nous sont demandés en partenariat avec la professeure Pascale Hoffmann qui soutient à l'Université de Grenoble le diplôme. Plus de cours qui nous sont demandés en formation initiale. J'ai fait personnellement un cours en formation initiale des externes de la faculté de l'Université de Paris, qui regroupe anciennement Paris Descartes et Paris Diderot, dans le cadre d'un module optionnel sur les violences faites aux femmes, parce qu'ils n'ont pas de formation du tout, hein, les jeunes externes. Et prochainement, avec la professeure Hoffmann, nous aurons à remplir, dans le cadre de la réforme du deuxième cycle des études médicales, l'item sur les violences sexuelles, puisqu'il n'y a toujours rien. Et donc, Madame Hoffmann et moi-même, on remplira l'item sur les violences sexuelles. Donc, ce dont nous rêvions arrive. En formation initiale, il y aura au moins un item sur 350 sur les violences sexuelles.
Vous traitez uniquement l'aspect violence sexuelle ou alors aussi la violence physique, autre ?
Alors, nous traitons tout. Oui. En formation initiale, là, dans le cadre de la réforme des études médicales, il ne nous a pas été demandé de traiter autre chose. Mais dans le cadre de l'enseignement du diplôme, prise en charge des violences faites aux femmes vers la bientraitance, nous traitons tout. toutes les violences psychologiques, dont je rappelle qu'elles sont punies depuis 2010 par la loi, et que tout ce qui est violence physique et violence sexuelle, de toute façon, à celle-ci préexistent toujours des violences psychologiques avec une mise sous emprise. Et nous traitons aussi de la prise en charge et du diagnostic et du repérage des violences faites aux enfants, puisque maintenant nous savons que les enfants, par exemple, de femmes violentées ou d'hommes violentés, puisqu'il y a aussi des hommes qui sont violentés, même si la majorité ce sont des femmes, les enfants ne sont pas témoins, les enfants sont victimes et ont les mêmes répercussions sur leur santé globale à l'âge adulte que les femmes qui ont pu subir, les femmes et les hommes qui ont pu subir la chose.
Donc il y a ce poste, enfin ce titre de soignant en premier recours. Est-ce qu'on peut détailler un peu cet aspect du premier recours aussi?
Alors les soignants de premier recours, c'est votre médecin généraliste, c'est votre gynécologue, c'est votre sage-femme, c'est votre kiné, c'est-à-dire tous les gens qui sont en première ligne pour vous prendre en charge quand vous avez un souci de santé. On sait bien qu'effectivement, il y a 25% des femmes qui peuvent parler et veulent s'adresser en tout cas à leurs soignants de premier recours, devant les gendarmes, devant les policiers, devant les psychologues, devant les assistantes sociales. C'est d'abord les médecins à qui les femmes veulent parler. Et c'est pour ça que... il faut arriver à faire une pression pour que la formation soit généralisée à plusieurs niveaux, en formation initiale, et pas seulement sur les violences sexuelles, bien sûr. Et pour que les femmes qui témoignent dans le kit, par exemple, il y en a une qui dit très clairement, puisqu'il y a une vidéo de 20 minutes avec 4 témoignages de femmes, elle dit très clairement qu'il faudrait que les soignants posent la question systématiquement. Est-ce que vous avez vécu des violences ou est-ce que vous viviez des violences? Parce que, comme elle dit, la dame, on ne va pas dire là, tout de go, à son médecin généraliste ou à sa gynécologue, « Ah ben, vous savez, là, je ne suis pas très à l'aise devant vous parce que j'ai été violée, par exemple. » Ça, c'est juste pas possible à dire. Et les enfants, c'est pareil. Donc, si nous, on n'est pas formés, les soignants de premier recours, on passe à côté de choses qui, par exemple, chez les enfants, sont très faciles à traiter. La pédopsychiatre Catherine Bonnet, la docteur Catherine Bonnet, dit bien qui s'est occupée d'enfants victimes de violences sexuelles avec des séquelles de psychotraumatisme, dit bien que c'est beaucoup plus facile à traiter. Plus c'est traité tôt, et mieux c'est, en fait. Et j'ai oublié, bien évidemment, les urgentistes, puisque théoriquement, dans chaque centre hospitalier, il y a un médecin référent. Urgence pour la prise en charge des violences faites aux femmes et aux enfants. Et donc, c'est vrai qu'il est établi maintenant dans toutes les études épidémiologiques que l'arrivée des femmes en service d'urgence est une circonstance de dépistage des violences très favorable. Si on est formé à poser systématiquement la question sur les violences, puisque les femmes n'en parlent pas spontanément et qu'elles inventent qu'elles sont tombées du tabouret ou des choses comme ça.
Ce mode opératoire n'est pas encore établi sur le DIWA, si ?
Alors, il y avait une référente violence et je crois que la docteure, j'ai oublié son nom de famille, Diane... qui travaille avec Sonia Rochat, l'animatrice du contrat local de santé sur le groupe de violence auquel participe un maillon manquant aussi. Il y a une médecin à la PASS, permanence d'accès aux soins de santé. J'ai oublié son nom de famille, son prénom c'est Sophie. Et la médecin urgentiste Diane, j'ai oublié son nom de famille, sont toutes les deux parties prenantes de ce groupe de travail sur les violences. Et je crois que l'urgentiste, effectivement, est référente et a dû avoir, je suppose, une journée de formation par la MIPROF sur les violences. Voilà.
Il y a quelque temps a été mis en place un numéro d'appel destiné aux personnes justement victimes de violences. Il y a eu une légère polémique puisque ce numéro de téléphone tendrait à disparaître. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que On n'a pas eu de suite à cette annonce.
Alors s'il y a eu une suite, excusez-moi, je vous ai interrompu. Il y a eu une suite. En fait, c'était pas qu'ils voulaient être supprimés. C'est que devant la pression, après le Grenelle des violences, après l'émergence des paroles sur les réseaux sociaux, toutes ces violences. Comme le 3919 n'était pas un numéro joignable H24, 7 jours sur 7, le gouvernement avait lancé un appel à projet pour essayer de trouver des interlocuteurs qui pourraient prendre en charge ce numéro H24, 7 jours sur 7. Or, l'expertise de Solidarité Femmes qui prend en charge en délégation de services publics depuis, je ne sais même plus depuis combien de temps, depuis 30 ans, 20 ans, le 39-19, avait donc été mis à mal puisqu'on imagine, le gouvernement imaginait de pouvoir faire appel à d'autres intervenants. Et finalement, le gouvernement a cédé. Et le 39-19 reste à la Fédération nationale Solidarité Femmes.
Voilà, c'était une question de propriété de ligne hein, aussi. C'était le problème, je crois.
Oui, il me semble, oui.
Oui. Et puis, il y a eu une polémique il y a un mois et demi, deux mois. C'est par rapport à la majorité sexuelle qui est maintenant à 13 ans.
Alors, la loi n'est pas encore votée.
Elle n'est pas encore votée ?
Non, elle n'est pas encore votée. Elle va être soumise la semaine du 15 mars. Hein, ça, c'est pareil. Hein, l'émergence des paroles sur les réseaux sociaux font pression pour essayer de changer la loi, puisque la loi n'avait pas été changée en juillet 2017, la loi de Marlène Schiappa. La loi n'avait pas été changée et donc il n'y avait toujours pas de seuil d'âge pour identifier ou non le consentement d'un enfant face à un adulte ou une personne âgée de plus de 5 ans que l'enfant. Et du coup, ce changement et cette mise en place d'un seuil d'âge va être discuté dans la loi à l'Assemblée nationale la semaine du 15 mars. Va être discuté aussi quelque chose qui est très important et qui est souvent méconnu, voire même par les experts de la chose, un amendement qui est essentiel, qui existe dans la loi de plus de 50 pays, États-Unis, Canada, etc., etc., où le signalant au procureur sur les violences sexuelles sur enfants est anonymisé auprès du procureur, ce qui permet le signalement plus important et dont on a prouvé qu'on augmentait par 3 le nombre de signalements pour enfants. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 2% de signalements de violences faites aux enfants faits par les médecins. C'est-à-dire que 98% des autres signalements ne sont pas faits par les médecins. Mais les médecins ont peur, puisqu'ils sont pris entre plusieurs articles de loi. Et donc, il faudrait introduire l'anonymisation du signalant, ce qui permettrait d'éviter le drame qui s'est passé à Annecy l'année dernière, où une jeune psychologue avait signalé au procureur des violences sexuelles d'une de ses patientes de 15 ans par, je crois me souvenir, son grand-père. Et le grand-père est arrivé le lendemain et a tué la psychologue quand même. C'est quand même pas anodin. Et cet amendement, la docteur Catherine Bonnet et le docteur Jean-Louis Chaberneau ont lancé une pétition. Ça suffit, sauvons les enfants. Ça suffit, maintenant, sauvons les enfants. Pour justement faire pression sur les parlementaires qui refusent d'introduire dans la loi cette anonymisation du signalant. Parce qu'actuellement, en fait, il n'y a que les fonctionnaires qui sont dans l'obligation de signaler. L'obligation de signalement n'existe pas pour les praticiens hospitaliers qui ne sont pas fonctionnaires, par exemple, et les médecins libéraux encore moins, et les soignants libéraux encore moins. Donc cet aspect de la protection de l'enfance est essentiel, et les experts, même parfois les experts du sujet sur les violences sexuelles, se trompent. Il n'existe pas d'obligation de signalement avec protection du signalant. Dans la loi française.
Vous parliez donc de 2% en provenance du personnel soignant. Les 98% donc émanent de quels organismes pour ces déclarations ou ces signalements?
Alors, je pense que ce sont les médecins de PMI et les gens de l'éducation nationale, les fonctionnaires donc, hein, puisque même au sein de l'éducation nationale, c'est très difficile. Si vous allez chercher des témoignages d'institutrices qui veulent faire remonter des choses au niveau de la directrice, souvent on met un gros couvercle dessus. Voilà. Donc je suppose que les 98% restants, c'est les PMI, protection maternelle et infantile, et l'éducation nationale, qui sont effectivement, eux, dans l'obligation, sous peine d'être dans l'infraction, ils ont l'obligation de signaler. Tous les fonctionnaires ont l'obligation de signaler.
Est-ce que il y a une réaction justement sur une dénonciation ou un signalement fait par rapport à une victime? Et est-ce que il peut y avoir un retour de bâton sur cette victime quand il y a un signalement?
Alors, l'inversion de la culpabilité, elle est classique, hein, en matière de violence, que ce soit sur les enfants ou sur les femmes. C'est-à-dire que, de toute façon, on va, la plupart du temps, on inverse la culpabilité par rapport à l'agresseur. Et la victime est désignée coupable et doit prouver, par A plus B, le non-consentement, etc. etc. En ce qui concerne l'après-signalement à la justice, je ne serais pas capable de vous répondre. Je ne sais pas que dire.
Il y a eu un chiffre aussi qui est sorti en début d'année, c'est le féminicide en France. Il aurait baissé à 97 victimes en 2020. Bon, c'est toujours de trop, mais est-ce que ces chiffres sont établis réellement, ou alors est-ce qu'il y a des sources d'informations qui ne remontent pas forcément au niveau de la parole du gouvernement, en tout cas?
Ben, je crois que ce sont les chiffres de la MIPROF, hein, Mission Interministérielle de Prévention des Violences Faites aux Femmes et contre la Traite des Êtres Humains.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que par rapport au Covid, ça n'a pas...
Alors, c'est très curieux, parce qu'effectivement, oui, ça a beaucoup baissé, alors que ça avait beaucoup augmenté entre 2019 et 2020. Entre 2018 et 2019, en 2018, il y avait eu 126 féminicides et en 2019, il y en avait eu 147. Et là, ça a beaucoup baissé et c'est un vrai questionnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas de chiffres? Moi, je dois dire que je ne suis pas sociologue et je ne me suis pas penchée sur les questions, mais tout le monde se pose beaucoup de questions sur cette baisse des féminicides, paradoxalement, alors même qu'on sait très bien que les violences conjugales ont énormément augmenté et que les violences faites aux enfants ont énormément augmenté. Par exemple, M. Adrien Taquet, qui s'occupe, je crois, qui est secrétaire d'État à la jeunesse, a officiellement dit que lors du premier confinement, il y avait eu une baisse des hospitalisations des enfants pendant le premier confinement. Mais par contre, que la part des enfants hospitalisés pour maltraitance avait augmenté de 50%. C'est-à-dire que, voilà, officiellement, on sait que le confinement entraîne une augmentation des violences conjugales et des violences sur enfants, bien sûr.
Le kit de mobilisation, je reviens un peu dessus, ça consiste en quoi?
Alors, en fait, c'est une action de mobilisation des soignants dont l'objectif est d'inviter les soignants à se former sur les conséquences des violences à l'encontre des femmes et des enfants, sur leur santé et singulièrement sur leur santé sexuelle et reproductive. C'est un peu ce que je vous disais tout d'abord. Et en fait, c'est une réunion, c'est un objet qui va être distribué dans toutes les maternités, les PMI, avec une chargée de communication. On a un financement pour une chargée de communication pour prendre contact directement avec les cadres, que ce soit en maternité, dans les CHU, etc. Et organiser une petite réunion de 45 minutes où on présente un certain nombre, donc c'est un objet avec un PowerPoint. Et la première question, par exemple, du PowerPoint, c'est: les violences faites aux femmes et aux enfants sont-elles un problème privé une question de santé publique, un délit ou un crime du code pénal ? Et nous ne répondons pas. C'est-à-dire qu'on laisse les participants de la réunion à réfléchir avec cette question. Et après, il y a une petite vidéo de 20 minutes de témoignage de quatre femmes qui ont bien voulu témoigner de leur vécu des soins en gynécologie, pendant la grossesse, ensuite de couche, ou pendant les examens médicaux, d'une façon générale. Donc ça, c'est pareil, il n'y a pas de commentaires. On passe juste ça, et après, on fait aussi, dans le PowerPoint, référence à une étude qui est sortie en 1998, qui s'appelle l'Adverse Childhood Experiences, ACE Study, et qui est une étude rétrospective qui avait été faite en Californie de 1995 à 1997 et qui avait montré la corrélation frappante entre les événements dits adverses de l'enfance, et pas seulement les violences, mais aussi les dysfonctionnements familiaux, les addictions, les séparations, les divorces, les maladies mentales d'un parent, une mère battue, un comportement criminel, additionnés aux violences et aux négligences. Comment il y a une corrélation croissante et positive entre le score, selon le nombre d'items qu'on peut remplir, et les pathologies à l'âge adulte, et pas seulement en santé sexuelle et reproductive, puisqu'il y a un surrisque de diabète, d'hypertension, de cancer du col, de maladies endocrinaux, etc., etc. Et voilà. Et une fois qu'on a déroulé tout ça, on leur donne quelques résultats de la CE Study, qui sont très frappants, hein, sur cette étude qui est certes rétrospective, mais qui portait sur 17 000 patients et patientes, et qui montre bien l'impact des événements adverses de l'enfance sur la santé à l'âge adulte. Pour le tout, pour éveiller la curiosité, et que tous nos soignants, là, nous tous, nous y allions pour nous former plus complètement et faire pression surtout sur les autorités. Parce que dans l'enseignement supérieur et en faculté de médecine, je vous rappelle qu'il y a, dans la réforme des études médicales du deuxième cycle à l'heure actuelle, un item sur les violences sexuelles et point barre. Il n'y a pas d'autre item, comme vous me demandiez, sur l'impact des violences psychologiques, l'impact des violences physiques, sur la santé. Après, à la décharge, les études épidémiologiques sur le sujet ne sont sorties que très récemment, on va dire fin des années 90, début des années 2000, mais malheureusement, elles ne sont pas trop diffusées, voire pas du tout, en enseignement initial et en formation continue. Voilà. Je ne reviendrai pas sur le fait qu'il n'existe qu'un seul diplôme monté par un maillon manquant.
Perrine Millet, vous êtes optimiste pour cette reconnaissance de cet aspect de la médecine et puis de la violence aussi aux personnes dans cette considération? Est-ce qu'il y a une considération qui s'opère en progressant ou en s'accentuant justement dans le cursus universitaire?
Alors en fait, un maillon manquant a été monté printemps 2016 et très vite... nous surfons sur la vague, hein, des #MeToo, #MeTooInceste, etc. Et du coup, et voilà, il y a eu le Grenelle sur les violences, il y a des lois qui sont votées, la mise en application toujours beaucoup plus difficile. Hein. Par exemple, pour la justice, c'est quand même très délicat de traiter les 94 000 viols de femmes en France, c'est le chiffre officiel du service des statistiques du ministère de l'Intérieur. C'est très difficile de les traiter en tant que crime, puisqu'il n'y a, en 2018, il n'y avait eu que 2200 cours d'assises possibles montées en France. Donc, comment on fait pour la justice pour traiter ça? Par contre, moi, je suis très optimiste, parce qu'effectivement, cette poussée de la parole des femmes va avec ce que nous, on appelle la médecine partenaire, c'est-à-dire que c'est le patient et la patiente qui construit son projet de soins avec le soignant, et ce en quoi la parole sur les réseaux sociaux, même si elle est anonyme, a poussé et continue à pousser à un changement de vision de la médecine, prenant en compte la parole des patients et des patientes.
Et le programme du Maillon Manquant dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, vous prévoyez quelques événements, à savoir, d'après juste que le porte-parole du gouvernement aurait dit c'est aujourd'hui qu'on pourrait peut-être vivre un retour à la normale à partir de mi-avril. Est-ce que ça permettrait justement de remettre en place des animations, des rencontres ?
Alors déjà, oui, j'espère qu'on pourra refaire, effectivement, réorganiser cette matinée de formation pour les gendarmes et les médecins du DIWA avec, en partenariat avec la sous-préfecture. Madame la sous-préfète nous avait accueillis très favorablement. Et puis, un maillon manquant, nous avons la chance, puisque le diplôme nécessite des interactions très... très importante avec les apprenantes et les apprenants. Nous avons la chance de pouvoir avoir du présentiel quand même. Donc la première session de la troisième promo, c'est la semaine du 15 mars. Après, il y aura la deuxième session à Grenoble, la semaine au mois de juin. Et puis, nous essaierons d'avancer sur les réunions. Par exemple, là, nous ne pouvons pas nous réunir avec les mécènes qui nous ont donné des financements pour monter le kit parce que tout le monde travaille est en télétravail. Donc, ça va nous donner l'opportunité de leur montrer ce qu'on a fait, sachant que ce kit sera ultérieurement évalué à la lumière d'une thèse. Soit une thèse en santé publique, là aussi on a obtenu un financement, soit une thèse en épidémiologie ou en sciences politiques sur l'impact de ce kit sur la formation des soignants par rapport aux violences faites aux femmes et aux enfants. Donc bien sûr que ça nous permettra d'avancer un peu plus.
Le site Un maillon manquant existe ?
Le site Un maillon manquant existe. Malheureusement, il n'est pas vraiment actualisé parce que je n'ai pas le temps. Mais il existe. Un maillon manquant.http/www.unmaillon. Vous tapez Un maillon manquant, vous arrivez sur le site d'Un maillon manquant.
Il y a les moyens d'y trouver des contacts pour pouvoir...
Alors, il y a une carte de géolocalisation qui est intéressante. Puisque c'est un certain nombre de nos diplômés qui ont accepté de mettre leur adresse, ce qui permet sur la France entière d'avoir un référent formé sur les violences par le diplôme. Alors actuellement, on n'en est qu'à la deuxième promo qui s'est inscrite. Ils ne sont pas tous inscrits, hein. Il y en a 100 qui ont été formés. Mais cette année, il y en aura 50 de plus, etc. etc. Et donc ce site de géolocalisation, il est intéressant pour tout le monde.
C'est bon. Eh bien, Perrine Millet, je vous remercie donc d'être venue nous parler de Un maillon manquant et puis de nous annoncer partiellement la journée internationale de la lutte du droit des femmes qui se passera donc le 8 mars sur toute la planète et dans le DIWA aussi avec ce rendez-vous donné devant la cité scolaire à midi pour un défilé dans les rues jusqu'au square de la Comtesse. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Bonne fin de journée à vous et merci encore de m'accueillir si gentiment à chaque fois. Au revoir.
Au revoir.
sleep, same old, sleep, same old, stupid habit, same old, fucking problem, same old me.